Fermez les yeux. Inspirez profondément, puis expirez doucement. Encore une fois. Détendez-vous. Vous avez confiance en moi ? N'ayez pas peur. Suivez-moi. Je vous emmène faire une petite promenade dans la nature. N'ouvrez pas les yeux. Suivez le son de mes pas. Je vous guide. Humez l'air. Vous sentez cette douce odeur d'herbe mouillée, de mousse, de feuilles mortes et de bois ? Oui, bravo. Nous sommes dans une forêt. Un bruit ? Quel bruit ? Ce ne sont que les branches qui craquent sous nos semelles. Pas de quoi s'inquiéter. Tendez l'oreille. Écoutez le clapotis du ruisseau que l'on devine au loin. Le souffle du vent dans les branches dénudées. Tout n'est que quiétude et douce poésie. Ah, ça y est, j'aperçois la fameuse clairière. Venez, venez vite. On est presque arrivé. Comment ça, où ça? Vous suivez un peu? Bon, je vais devoir tout reprendre depuis le début. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Nous voici donc aujourd'hui au cœur de la Transylvanie, dans la forêt de Hoia Baciu. Elle s'étend sur près de 300 hectares au nord-ouest de la Roumanie et elle est fréquentée par les promeneurs, les cyclistes et les joggeurs de la région qui l'apprécient tant pour sa taille que pour sa beauté. On y trouve même des terrains de paintball, de softball et un espace d'entraînement au tir à l'arc. Jusqu'ici, tout va bien. Mais nous sommes dans Feu de camp, pas dans rando autour du monde. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un twist. Figurez-vous que la forêt a un petit surnom dans le milieu. On l'appelle le triangle des Bermudes de la Transylvanie, en toute simplicité. Et pourquoi ce surnom ? Oh, patience, vous allez voir. Tout d'abord, histoire de mettre les choses en perspective, sachez que cette forêt est intacte depuis un bon petit moment. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver des traces d'occupation humaine remontant au Paléolithique. Autant dire qu'il en est passé du monde entre ces arbres. Et son nom lui-même est tiré d'une légende locale. On raconte qu'un berger nommé Baciu, accompagné de ses 200 moutons, aurait disparu alors qu'il traversait la forêt. Alors bon, un homme qui se volatilise dans une grande forêt, ça peut arriver, mais un homme et 200 moutons, c'est balèze comme disparition. L'un des points les plus actifs de la forêt serait une petite clairière qui se trouve en son centre, appelée Poyana Rotunda, ce qui signifie tout simplement « clairière ronde ». L'une de ses particularités est qu'aucun arbre n'y pousse. C'est le principe d'une clairière, me direz-vous, mais apparemment celle-ci est spéciale. Quant aux arbres qui poussent autour, ils ont une spécificité que les scientifiques n'ont pas encore réussi à expliquer. Ils ont tous le tronc tordu. Plus intriguant encore, cette torsion s'effectue systématiquement dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui fait que tous les troncs sont biscornus et tous absolument identiques dans leur difformité. Ça leur donne un aspect presque caricatural, comme les arbres d'une forêt hantée issue d'un dessin animé. Beaucoup de légendes et de rumeurs circulent sur cette clairière. De nombreux promeneurs et amateurs de frissons affirment avoir ressenti un malaise physique très fort en y pénétrant, et certains en sont même ressortis avec des traces de brûlures, des bleus, des éruptions cutanées et des griffures, sans jamais pouvoir identifier la source de telles lésions. Les appareils électroniques ont une sacrée tendance à dysfonctionner aussi lorsqu'on entre dans la zone, rendant la communication et la prise d'image un peu difficiles par moment. Et bien sûr, comme c'est souvent le cas dans les zones d'activité paranormale, la température chute drastiquement dès qu'on pénètre dans le cercle. Les spécialistes du paranormal sont convaincus que ce cercle est un portail vers l'au-delà, ou une dimension parallèle, d'où son énergie très forte et potentiellement nocive. Certains pensent même que c'est un accès direct au purgatoire, zone d'errance intermédiaire entre l'enfer et le paradis, et qu'on peut parfois entendre les plaintes des âmes égarées. De nombreux promeneurs et campeurs racontent y avoir vécu des choses inexplicables. D'abord, il y a cette étrange sensation qui semble envahir toutes les personnes qui pénètrent dans la forêt. Cette conviction profonde et soudaine d'être observé par quelqu'un ou quelque chose d'imperceptible. Et puis, il y a ce qu'on arrive à voir, mais qu'on aurait préféré ignorer. Des silhouettes qui se faufilent entre les troncs d'arbres, qui semblent humanoïdes, mais pas tout à fait. Elles sont soit trop petites, soit trop grandes, avec des membres aux proportions étranges, la peau d'une couleur anormale ou couverte de poils ou d'écailles. Mais elles sont toujours trop rapides et furtives pour être totalement observées. Même les quelques photos ou vidéos qui existent sont floues et ne durent qu'une pincée de secondes. La forêt sait garder ses secrets. Et partout dans la forêt, il est possible d'entendre et de voir des choses inquiétantes. Des rires d'enfants, des cris de femmes, des ombres fantomatiques qui dansent entre les arbres. De jour comme de nuit, les témoignages abondent. Il est dit par exemple qu'une petite fille se promenant dans la forêt a disparu sans laisser de traces avant de réapparaître 5 ans plus tard dans la même tenue, sans avoir vieilli d'un jour et sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé pendant son absence. Une autre histoire raconte qu'en 1961, alors qu'il campait à 5 ou 6 au milieu des bois, des soldats se sont mis à ressentir une sensation de malaise très forte. Au cours de la nuit, ne parvenant pas à dormir, ils sont perturbés à plusieurs reprises par des bruits étranges, dont ils ne trouvent jamais la source lorsqu'ils prennent la peine d'inspecter le périmètre. Pour ne rien arranger, d'étranges lumières semblent balayer leur campement, venant à la fois du ciel et d'entre les arbres. Mais l'événement qui les pousse à déguerpir pour de bon est l'apparition soudaine de la silhouette translucide d'une petite fille, qui s'approche d'eux sans un mot, avant de passer à travers l'un des soldats et de disparaître sous leurs yeux. Soldats ou pas, les hommes ne cherchent pas à en savoir plus après ça et se tirent en vitesse, traumatisés par cette expérience. Il semblerait même que celui qui a été traversé par la petite fille a fini dans un hôpital psychiatrique dont il n'est plus jamais ressorti. Parmi les fantômes qui sont régulièrement croisés dans la forêt de Hoyabachu, et notamment dans cette fameuse clairière, on trouve un certain nombre de paysans qui auraient été massacrés il y a fort, fort longtemps. En plus d'avoir une vie pas ouf qui s'est terminée de façon vraiment nulle, ils sont désormais condamnés à errer dans la forêt pour l'éternité. Donc c'est pas étonnant que les gens qui les croisent parlent de silhouettes menaçantes, au regard empreint de colère et de violence, inspirant une sensation de danger absolu et immédiat. En d'autres termes, si vous voyez un gus en haillon avec un air patibulaire, partez en courant, vite et loin. S'il est difficile de trouver des preuves tangibles de leur dangerosité, le fait que quelques milliers de disparitions aient soi-disant eu lieu dans la forêt constitue peut-être une preuve suffisante. On ignore cependant si les personnes disparues ont été directement envoyées dans l'au-delà ou si elles font désormais partie de la rotation spectrale de la forêt. Mais comme les gens qui croisent les fantômes des environs ont plus tendance à partir en courant qu'à leur poser des vraies questions, on n'en sait pas plus pour le moment. Il nous faudrait une Élise Lucet du paranormal, finalement. Dans les années 50, le biologiste Alexandre Roussift, intrigué par la forêt, sa réputation et l'étrange sensation qui l'envahit à chaque fois qu'il y met les pieds, décide de mener sa petite enquête. En 10 ans, il ne prend pas moins de 60 000 photos pour tenter d'immortaliser tous les éléments étranges qu'il croise au cours de ses inspections. Dans ses notes, il rapporte qu'il se sent constamment observé dès qu'il entre dans la forêt. Il explique aussi qu'il voit régulièrement des ombres et des silhouettes étranges entre les troncs d'arbres, dont il arrive à prendre quelques photos un peu floues, sans jamais réussir à identifier leur propriétaire. Plus inquiétant encore, lorsqu'il progresse dans la forêt, il s'aperçoit que ces silhouettes le suivent. Malheureusement, la grosse majorité de ces photos et de toutes les preuves de ce qu'il avançait a disparu après sa mort en 1993. Comme tout bon triangle énigmatique qui se respecte, la réputation du lieu n'est pas due qu'à ses légendes et ses fantômes, mais aussi à ses invités surprises venus d'un autre monde. C'est un certain Émile Barnéa qui en fait l'expérience en août 1968. Alors qu'il est en train de se promener avec sa petite amie Mathéa et quelques-uns de leurs amis, l'un d'eux se met soudain à crier en pointant le ciel du doigt, jurant qu'il vient d'y voir quelque chose d'étrange. Émile regarde dans la direction indiquée par son ami, et il aperçoit effectivement un objet circulaire, d'apparence métallique, en train de survoler les arbres de la forêt. Fort heureusement, l'homme se souvient qu'il est venu avec son appareil photo et le dégaine aussitôt pour capturer l'étrange phénomène. Après avoir pris 4 photos, il continue d'observer l'OVNI qui avance doucement avant de changer de direction, devenant de plus en plus lumineux, puis d'accélérer brutalement et de disparaître. Ces photos ont été analysées par des ufologues qui ont tous attesté de leur authenticité. L'une des preuves les plus tangibles qu'on puisse trouver aujourd'hui est extraite de l'émission américaine Destination Truth, dans laquelle une équipe de chasseurs de fantômes parcourt le monde à la recherche des lieux les plus hantés. Dans l'épisode qui se déroule au cœur de la forêt, l'un des membres de l'équipe prend la décision bien courageuse de s'asseoir seul au milieu de la fameuse clairière, tandis que ses collègues se trouvent à proximité, prêts à intervenir. Soudain, ils entendent un cri étranglé, et on peut voir l'homme disparaître dans l'obscurité. Les autres chasseurs de fantômes se lèvent et se lancent immédiatement à sa recherche, criant son nom. Ils finissent par le trouver allongé au milieu de la végétation, immobile, en état de choc. L'équipe médicale est appelée en urgence et examine l'homme, qui se plaint de douleur. Et effectivement, l'un de ses bras est couvert de griffures. Une fois qu'il recouvre ses esprits, il explique qu'il a ressenti comme une énorme bourrasque lorsqu'il était assis et qu'il a été poussé par cette force invisible. Sur les images de la caméra, on le voit effectivement être brutalement poussé en arrière, sans l'intervention de qui que ce soit. On ne sait pas si ça vient des aliens, des fantômes, de la forêt elle-même ou du purgatoire, mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience lui a laissé un souvenir impérissable et qu'il n'a pas passé un très bon moment. Ce que je trouve chouette avec cette histoire de forêt hantée datant du paléolithique, c'est que ça permet une sacrée diversité. On a l'habitude d'entendre parler de lieux hantés avec deux ou trois fantômes à tout casser, souvent tous issus de la même époque ou pas loin. Mais là, on peut croiser un chasseur-cueilleur en slip de buffle, un guerrier thrace, un paysan médiéval ou un soldat de la Seconde Guerre mondiale dans la même promenade. Et ça, je trouve que c'est quand même assez magique. C'est dommage qu'on puisse pas inscrire le paranormal au cursus scolaire, parce que si les sorties organisées par les profs d'histoire passaient par des forêts hantées et des rencontres avec les vrais acteurs des époques étudiées, je suis sûre qu'on retiendrait nos cours vachement plus facilement. Encore une idée géniale que personne ne va exploiter, je suis sûre. Après, l'éducation nationale a peut-être pas le budget pour les sorties en forêt, mais hey, on peut au moins s'arranger pour que chaque classe ait une planche de Ouija, non ? Vous imaginez un peu si on pouvait invoquer Vercingétorix ou Cléopâtre ou Jean Jaurès en cours d'histoire ? Ah, on en créerait des vocations, là. Bon, c'est sûr que ça remet en question l'expression « reposer en paix » et que ça finirait certainement par les saouler, mais ils vont faire quoi ? Posséder les élèves ? Oh non, je suis possédé par l'esprit de Karl Marx, au secours ! N'importe quoi. Bon bref, votez pour moi et instaurons ensemble l'utilisation du spiritisme à l'école, dès le collège. Feu de camp est un podcast d'énergie création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.